BFM TV, affaire suivante. Ronald Guintrange, Dominique Rizet.
C'est la question qui préoccupe les habitants de la Vienne où est passée Agathe Hilleret. Partie de son domicile de Vivonne pour un jogging, la jeune femme de 28 ans s'est volatilisée, est introuvable depuis le 10 avril dernier. Depuis, les recherches ont été stoppées. Une information judiciaire contre X pour enlèvement et séquestration ouverte, toujours sans aucun résultat. Pierre Le Gousset.
À la une de la presse locale, quelques jours après la disparition, un prénom, un mystère. Et pour les habitants, beaucoup d'émotions.
Je suis touchée parce que on se met à la place de la famille. Je vous dis, nous aussi, on a des enfants, des petits-enfants.
Est-ce qu'elle a été kidnappée? Est-ce qu'elle est encore vivante? Est-ce qu'elle est décédée? On ne sait pas.
Des jours durant, les gendarmes ont fouillé, quadrillé, ratissé les champs et les bois aux alentours de Vivonne. À la recherche d'Agathe Hilleret, une joggeuse de 28 ans. Partie du domicile de son père le 10 avril pour faire son footing, elle n'est jamais revenue à la maison. N'a plus donné de nouvelles depuis. Habituée à courir sur des distances de 10 voire 20 km, Agathe connaît bien ses forêts, ses sentiers de terre qu'elle a souvent parcourus. Une zone parfois mal fréquentée, selon Didier, qui la traverse souvent à VTT.
Il y en a beaucoup qui viennent là sur des motocross, et quand vous tombez sur un groupe, vous vous sentez tout seul, vous n'êtes pas en sécurité. Et moi, je conseille pour tous les sportifs qui roulent là de ne pas le faire tout seul.
Une question taraude les enquêteurs depuis. Qu'est-il arrivé à Agathe? En plus de l'hypothèse de la mauvaise rencontre, d'autres pistes ont été étudiées. Cette jeune femme décrite comme fragile et réservée aurait-elle choisi de fuir volontairement? Elle avait en tout cas prévu de se rendre à une fête d'anniversaire quelques jours après sa disparition. Aurait-elle fait un malaise ou chuté lors de sa course? Les gendarmes ont déjà passé la zone au peigne fin. Des battues ont été organisées, un hélicoptère ainsi que des plongeurs ont été mobilisés. Des recherches de terrain qui se poursuivent encore aujourd'hui, mais sur des lieux précis. En parallèle, des questionnaires sont distribués aux automobilistes. Ils seront ensuite épluchés par les autorités à la recherche de pistes.
Et Dominique, nous accueillons sur le plateau Gilles Rex, bonjour.
Bonjour.
Ancien major à la police technique et scientifique de la PJ de Paris, auteur de Parmi les morts aux éditions Mareuil, à vos côtés Florian Gatayas, bonjour. Vous êtes psychocriminologue. Les dernières informations, nous sommes à plus de 3 semaines, on tenait avec Dominique à faire le point sur cette disparition, forcément inquiétante. L'une des dernières informations, c'est la distribution d'un questionnaire à des automobilistes, on va y revenir, mais aussi le fait qu'il y a des recherches qui, de nouveau, se focalise sur des zones extrêmement petites, proches de la commune de Vivonne où Agathe vivait. Qu'est-ce qui fait qu'on se redirige vers ces zones-là, Gilles Rex?
Justement, peut-être grâce aux questionnaires qui sont donnés aux joggeurs, aux promeneurs, aux automobilistes, et peut-être que les enquêteurs ont-ils aussi de nouvelles pistes, peut-être ont-ils trouvé aussi des traces ou des indices intéressants dans ce secteur-là.
Florent Gatayas, comment, dans une enquête criminelle comme ça, est-ce que les enquêteurs ont, comme quand on monte dans un avion, pilote copie, une checklist des choses à faire? Puisque là, une semaine, on dit hein, le jeudi, donc on est une semaine ou 15 jours après, les enquêteurs vont distribuer des questionnaires jour de la disparition, en espérant peut-être qu'une personne qui a l'habitude de passer là ce jour-là, va repasser ou a vu quelque chose.
C'est pas si simple que ça. C'est pas une checklist. C'est des habitudes de travail qui ensuite se diversifient en fonction des problèmes qui peuvent être rencontrés, qui doivent être résolus. Chaque situation est différente. Donc il faut que l'inventivité, l'ingéniosité des enquêteurs se développe pour cette affaire-là. Le fait de chercher comme ça des informations sur tous azimuts, par les questionnaires, c'est une idée qui souvent permet de recouper des informations par le biais d'analyses de logiciels style Anacrim, qui permettent de pouvoir faire le rapport entre deux informations qui, a priori, à la première vue de l'enquêteur, ne serait pas pas de coïncidence. Oui. Et tandis que là, effectivement, on peut rassembler tout ça pour en faire quelque chose qui peut donner quelque chose de beaucoup plus concret. Ça n'était pas forcément prévu au départ.
Ouais.
C'est pour ça que c'est pas dans la
checklist. Et ça évolue.
Alors,
question à tous les deux, je la repose un peu autrement, mais est-ce que, pardon pour cette comparaison un peu osée, mais est-ce que l'enquête criminelle, ça pourrait être comme un jeu de société? dans lequel on dirait, voilà, au moment où une personne disparaît, il faut geler, demander aux opérateurs de geler les données pour les conserver. On demande à Orange, à SFR, à Bouygues, etc., à Free, de bloquer toutes les gelées sur les comment on appelle ça, les endroits où sont passées les personnes. Ouais. Quoi. Donc, je vais pas y arriver.
Retrouver les acteurs, geler
l'appareil. Comment ça s'appelle
Les bornes.
Première chose. Deuxième chose. Une semaine après, revenir voir si. Troisième chose, geler la scène de crime. Quatrième chose, les voitures qui sont passées par là, les téléphones. Mmh. Est-ce que ça fonctionne comme ça ou pas?
Le problème, c'est la rapidité en fonction de ce que l'on estime être l'intensité des moyens nécessaires pour la recherche. Oui, il faut d'abord geler les données des bornes.
Sur les bornes, voilà.
Sur les bornes, mais pour ça, il faut considérer qu'il y a un contexte criminel. Ça a été le cas avec la judiciarisation de cette disparition. Auparavant, c'était pas aussi évident que ça. Alors il y a un délai sur lequel on peut geler ces données. Donc c'est une machine qui se met en marche et qui avance au fur et à mesure de ce que l'on trouve.
Oui, mais je dirais que on dit souvent que les 48 heures sont les plus importantes.
Oui.
Donc c'est un peu aujourd'hui on est passé dans une autre façon d'enquêter.
Effectivement. Mais aussi il faut dire que considérant la victime, c'est une victime qui est mobile. Rappelons qu'elle est partie faire un jogging. On ne sait pas exactement par où elle est passée.
Et son téléphone borné à 10 km de chez elle, téléphone qu'elle portait à son poignet en courant.
Voilà, c'est ça. Donc après, effectivement, il va falloir geler les données à 10 km et puis dans un périmètre beaucoup plus grand aussi, quoi. Et ça va être la difficulté. Mais effectivement, vous avez raison, dans les premières heures, ce sont les premières minutes et les premières heures qui sont les plus importantes.
Et c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font maintenant, les enquêteurs? Qu'est-ce qu'ils font de différent? Qu'est-ce qu'ils font qu'ils n'ont pas fait dans ces 48 premières heures? Parce que ce n'était pas l'urgence, c'est parce qu'ils avaient une forme d'urgence qu'ils n'ont peut-être plus. Et qu'est-ce qu'ils ne font plus aujourd'hui?
Ils font justement tout ce qu'ils n'ont pas fait, tout ce qu'ils estiment devoir faire maintenant, c'est-à-dire élargir les recherches, demander à la population alentour de leur donner un coup de main, en fait. Et puis, ce qu'ils ne font plus, c'est qu'ils n'explorent plus certaines pistes qu'ils considèrent comme moins importantes, par exemple la piste de la disparition volontaire, je suppose. Donc ça, ils ne s'occupent plus
de
ça.
On s'en éloigne de plus en plus.
On s'en éloigne de plus en plus. Et là, ils vont se reconcentrer sur quelque chose de très inquiétant, puisque maintenant des fouilles, des battues ont été faites, comme ils font d'habitude. Maintenant, ils ont l'habitude de faire ça, évidemment, avec des caméras thermiques, des hélicoptères, les chiens, des personnels militaires.
Des plongeurs aussi, également.
Des plongeurs, donc des drones, en fait. Et ça, si ça n'a rien donné, ce qui est vraisemblablement le cas, il n'y a aucune trace, aucun indice probant qui a été retrouvé jusque-là. Eh bien, donc là, il va falloir qu'ils passent et qu'ils explorent plus la piste criminelle, vraisemblablement.
Avec vous, Gilles Rex, on a l'aspect technique de l'enquête, et avec vous, Florent Gattarias, on a l'aspect, on disait ça en préparant l'émission avec Ronald, si. Est-ce que la personnalité d'Agathe, particulière, elle est jeune, elle est anorexique, elle pèse 35 kilos, c'est une coureuse d'habitude, elle fait du semi-marathon, 21 km, c'est de la route quand même. Est-ce que l'aspect psy, il a une importance, il revêt une importance particulière dans cette enquête?
Oui, bien sûr, parce que dans les différentes pistes, les pistes traditionnelles dans une disparition, c'est disparition volontaire, dont le suicide, accident, et intervention d'un tiers qui peut être soit connu, soit inconnu. Là, dans ce cadre-là, la disparition volontaire et le suicide, avec le temps qui passe, avec les éléments que l'on a pu obtenir sur sa préparation à sa sortie ce jour-là en forêt, la piste suicidaire devient de plus en plus difficile à...
Pardon de vous poser la question directement, parce que s'il y avait eu suicide, il n'y aurait pas eu forcément volonté de cacher ce suicide,
oui,
et donc de se cacher, de dissimuler à ce point-là.
C'est rare qu'une personne qui se suicide le cache son corps. Au contraire, un suicide en soi est un message. Donc, pour que le message passe, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit vu. Donc, alors effectivement, il y a toujours des exceptions, mais globalement, c'est ça. Alors, l'accident est toujours possible. Rappelez-vous l'affaire Pauline Lafont. On l'a cherché longtemps, et c'est toujours une possibilité. Ensuite, quand même, plus on cherche, plus on se rapproche d'un déplacement de la personne, vivante ou morte. Et à ce moment-là, l'intervention d'un tiers devient l'hypothèse la plus, non pas forcément la plus crédible, mais celle sur laquelle on va la plus s'attarder, parce que c'est celle sur laquelle il y a le plus d'éléments à chercher.
Là, on revient au départ, on se dit, on revient au bureau, on n'a pas retrouvé Agathe, on l'a cherché partout.
Oui.
Donc, quels sont les moyens? On va faire appel à la technique, la téléphonie, qu'est-ce qu'on fait?
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, il va y avoir tout un tas de choses qui vont être développées, qui sont contraignantes, qui prennent du temps, qui sont très chronophages. C'est-à-dire toute l'exploration de l'environnement social de la victime, de la personne disparue, de l'environnement social familial, amical, professionnel, les réseaux sociaux, les perquisitions dans son domicile, dans sa chambre, récupérer tout le matériel informatique qu'on peut. Et ça c'est long, ça prend du temps. Les enquêteurs vont aller gratouiller là-dedans et chercher des fils infimes pour essayer de remonter en parallèle des recherches qui sont faites sur le terrain.
Parce que Dominique, ce qu'il faut préciser à nos téléspectateurs, c'est que l'ouverture d'une information judiciaire, ça a des conséquences très concrètes. On n'a pas besoin d'accord pour les perquisitions, j'ai noté, les gardes à vue peuvent être prolongées, on peut également avoir recours à des écoutes téléphoniques beaucoup plus facilement.
Bien sûr, les enquêteurs ont plus de liberté pour travailler, le cadre judiciaire s'élargit, on ne va pas entrer dans tout l'aspect technique, mais c'est vrai que le cadre judiciaire s'élargit et que ça leur permet des moyens supplémentaires, des expertises, des demandes d'expertise. Sur ces expertises, quand vous dites tout à l'heure on va bosser sur son matériel électronique, on va bosser sur les perquises, il faut des enquêteurs spécialisés parce que tout le monde ne peut pas. Moi, je suis incapable, je ne connais pas beaucoup d'enquêteurs qui sont capables d'aller chercher dans mon téléphone ou dans un téléphone des infos. Déjà, il faut casser le téléphone, il faut avoir le code. Qu'est-ce qu'on va chercher?
Bien sûr, tout ce matériel-là va être donné à des spécialistes. Il y a un département qui s'occupe de l'informatique. Si ce sont les gendarmes qui s'occupent de cette affaire, ce matériel-là va être remonté à l'IRCGN.
Où là, on a l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie.
Ah, c'est ça,
si c'est la police?
Ben c'est pareil, il y a des spécialistes en informatique qui vont décrypter, il y a des unités cyber, des unités informatiques et des unités très spécialisées en téléphonie. Nous, au SRPTS, au service régional de police technique et scientifique de Paris, il y a des cellules, il y a une section qui s'occupe de la téléphonie, de l'imagerie, du son et qui peut décrypter et analyser tout ce que contient un appareil comme ça.
Ce que contient un appareil, ce qui est intéressant aussi, c'est la raison de votre présence à tous les deux, c'est qu'il y a des data brutes, des données brutes. Mais est-ce qu'on peut aussi, si ces données brutes ne donnent rien, analyser la psychologie de ce qui apparaît ou non? Parce que c'est aussi, on imagine que dans des échanges, dans un texto envoyé par une victime présumée, il y a aussi des messages qui sont des messages subliminaux sur l'état d'esprit, sur peut-être des volontés ou des possibilités qui ne se sont pas encore avérées. Est-ce que c'est aussi un travail qui peut se faire par rapport aux data non brutes?
Bien sûr. Alors, il y a ce côté relationnel qui est important, mais il y a aussi tout le côté comportemental. Le téléphone va permettre aussi de connaître les déplacements. Les déplacements donnent des habitudes. Ces habitudes vont être confrontées aux recherches. Et là, ce sera d'autant plus des éléments qui permettront d'affiner la recherche. Au niveau relationnel, puisqu'il y a cette le fait que l'on considère qu'elle soit fragile, alors c'est une fragilité particulière. Il faudrait, elle est fragile mentalement et physiquement, et même si elle fait 35 kilos, c'est quand même une grande sportive.
Oui, bien sûr. Elle court tous les jours entre 10 et 20 km.
Tout à fait. Je suis incapable de le faire. Cette fragilité-là ouvre certaines hypothèses. Il faut pouvoir les investiguer et essayer d'en faire quelque chose. Néanmoins, encore une fois, la piste disparition volontaire, voire suicide, paraît plus délicate actuellement.
Autre question qu'on se posait tous les deux en préparant la mission. Qui est-ce qui prend soin? Est-ce que quelqu'un prend soin des parents d'Agathe? Est-ce que quelqu'un les rassure, les tient au courant? Sinon le procureur? Qu'il les appelle pour, j'imagine. Mais est-ce que sur le terrain, quelqu'un comme vous, un psychocriminologue, peut aller les voir en leur disant on fait le boulot, on fait tout ce qu'on peut, autre chose qu'une réponse de procureur ou une réponse technique, une réponse humaine?
Ça dépend des services qui sont, des services de police ou de gendarmerie qui sont impliqués, la proximité, la possibilité d'avoir un psy à disposition ou pas. Il y en a de plus en plus, mais pas partout. dans l'affaire présente, je ne sais pas ce qui a été fait précisément. Néanmoins, la gendarmerie a largement les moyens de faire des propositions de soutien, ne serait-ce que pouvoir amener la famille à d'autres services de soutien psychologique, s'il le faut.
Une dernière question à tous les deux, parce que vos réponses seront peut-être différentes, mais est-ce que le temps joue en faveur de la vérité ou contre la vérité, dans ce type de, vu votre expérience?
C'est Locard, hein, je dis toujours ça, mais c'est Locard qui disait que le temps qui passe sur une affaire criminelle ou très intense comme ça, le temps qui passe, c'est la vérité qui s'enfuit. Et ça, je pense que c'est une vérité qui existe depuis la nuit des temps. Même si aujourd'hui on a la possibilité de remonter sur des informations très importantes, mais malgré tout, plus ça va vite et plus on a de choses dès le départ, et mieux c'est pour tout le monde.
Alors Locard disait ça, c'est qui Locard
pour ceux qui... Locard, c'est un médecin français qui a été le premier à créer le premier laboratoire de police technique et scientifique au monde. C'était en 1910 à Lyon.
Et Florent Gatarias, qu'est-ce que vous en pensez de ce temps qui passe et de cette vérité qu'on ne connaît pas?
Effectivement, une enquête criminelle, c'est presque un entonnoir, c'est-à-dire qu'on inversé. On s'occupe d'abord des choses évidentes, parce que on sait que c'est ce qui donne le plus de résultats dans une enquête, et plus le temps passe, plus on élargit le champ des recherches. Et donc plus on élargit, plus on disperse les moyens, et donc plus c'est difficile.
Merci à tous les deux d'avoir été sur le plateau d'Affaires Suivantes et d'avoir évoqué cette affaire, mais aussi à la façon dont on travaille pour ce type d'enquête extrêmement compliquée. On suivra évidemment avec Dominique cette affaire de la disparition d'Agathe.